18h sonne et vous écoutez Curiosité, la quotidienne de Prune qui s'attarde sur la vie locale, culturelle, associative, sociale et politique. Jusqu'à 19h, la rédaction de Prune va à la rencontre des acteurs qui s'expriment, créent, militent, mobilisent et administrent notre territoire pour en dresser un portrait du lundi au vendredi. Curiosité, c'est maintenant sur Prune 92 FM et prune.net.
Bonsoir à tous et à toutes, on est le 13 mars, 18h01. J'espère que vous allez bien, vous êtes sur Prune, c'est l'heure de Curiosité. L'émission qui vous propose un point sur la culture et tout ce qui se passe à Nantes, comme tous les vendredis. On est ravis de vous retrouver avec toute l'équipe, on est en direct jusqu'à 19h sur le 92 FM et le www.prune.net. Semaine un petit peu difficile et compliquée avec le coronavirus cette semaine. D'ailleurs, Victor, toi, tu vas nous en parler tout à l'heure.
Yves Calva viendra nous en parler, effectivement, parce que je pense qu'on n'a pas assez parlé du Covid-19. Peu de gens savent encore ce qui se passe, donc il me semble nécessaire d'en remettre une couche.
Voilà. T'as raison, BFM l'avait pas assez fait.
Non, pas du tout.
Alors, un petit point là-dessus. Voilà, les rassemblements de plus de 1000 personnes ont été interdits. Bah, maintenant, cette semaine, depuis aujourd'hui d'ailleurs, c'est ceux de supérieurs à 100 personnes. Forcément, il y a des conséquences dans tous les domaines. Bah, déjà pour nous. Parce qu'au niveau culture, bah, les rassemblements de 100 personnes, bah, c'était un peu notre marque de fabrique. On en parlait, maintenant ça va être un petit peu compliqué.
Il n'y aura que les trucs underground de moins de 100 personnes, hyper privilégiés, tu vois.
Bah, tous ceux qui font des soirées dans leur salon, on va les inviter maintenant.
Voilà, exactement. On va s'inviter chez vous, dans vos salons, méfiez-vous.
Voilà, plein d'événements reportés, d'autres annulés, des festivals. Je pense notamment au festival Paco Tyson, ça fait la deuxième fois consécutive où ils sont obligés d'annuler. On va quand même essayer de faire une émission avec un peu de joie et de bonne humeur, malgré tout ça. On va parler... oui, merci.
C'est le challenge de 2020, c'est essayer de rire à cette année.
Oui, allez, s'il vous plaît. On se motive. On va parler d'une pièce de théâtre qui aura peut-être du coup lieu demain. C'est bon, c'est sûr.
C'est pas demain, c'est la semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine.
Mais nous, déjà, on est le plus petit théâtre de Nantes. Alors, on passe en dessous la limite des 100.
Bon, ça va.
Et on joue tant qu'on peut.
Une autre pièce de théâtre dont on va parler en deuxième partie d'émission. Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle le Grève.
Décidément, je pense que cette émission va être sous le signe de la bonne humeur. Donc, ce sera une interview faite par toi, Sophia, en deuxième partie. Comment ça va ?
Bah, ça va bien, toi aussi.
Bon, et écoute, on te retrouve dans à peu près une trentaine de minutes. Ce sera après la pause cadeau autour de 18h30. Et avant ça, on va parler d'un spectacle donc, qui aura lieu la semaine prochaine au Théâtre Crapo-Roy. Donc, on va rester un peu dans le thème. Apparemment, un spectacle sur les élections municipales. Non, c'est pas un truc... D'après ce que j'ai lu...
Un peu social.
Un peu social, voilà. Tu veux nous faire un petit pitch, Amandine, sur... Sur la pièce ?
Non, certainement pas. Je vais lui demander. Pas du tout, mais c'est une question que je poserai à notre invité.
Une question que
tu
voulais
invité,
lui poser ?
Évidemment.
D'accord. Bon, Charline aussi, qu'on va retrouver tout à l'heure pour ta chronique. Tu vas nous parler de quoi, toi ? Ne dis pas Covid-19, s'il te plaît.
Ah, d'un autre sujet très léger, je vais vous parler d'un bunker nazi.
C'est festif aussi,
elle l'a dit.
Qui est devenu un lieu culturel. Voilà.
Ah bah oui, c'est très festif aussi. Bon, moi je vous propose de commencer avec cette première interview. Amandine, je te laisse la place.
Pas la peine de courir. Curiosité, c'est jusqu'à 19h et vous arrivez à point.
Ce soir, nous parlons d'un ancien commerce nantais transformé en théâtre, le théâtre Crapo-Roy, situé au 26 rue Léon Jamin, qui a pour particularité d'être le plus petit théâtre de Nantes et propose tout au long de l'année une programmation variée entre spectacles et concerts face au public restreint que permet ses 37 places assises. Sauf changement de programme en raison du coronavirus, le spectacle chronique d'un petit pays...
Je note à chaque fois que quelqu'un dit corona, tu m'attendais.
Le spectacle chronique d'un petit pays va se jouer tous les vendredis et les samedis du 20 mars au 9 mai, ainsi que deux dimanches durant cette période. Un seul en scène interprété et mis en scène par vous-même, Alexis Ziane, ainsi que Damien Reynal. Ce spectacle est issu du discours à la nation de Ascanio Celestini. J'espère que je le prononce bien.
C'est Ascanio.
Ascanio, pardon.
C'est pas grave. C'est
donc, pas je vous repose la question que posait Kevin tout à l'heure en introduction. Quel est le pitch de ce spectacle ?
Alors, Chronique d'un petit pays, en fait, c'est une... C'est plusieurs textes qui sont issus, comme tu l'as dit, de discours à la nation. C'est des successions de discours, en fait, de paroles de puissants, beaucoup, qui sont plus comme des fables politiques, des fabliaux, des contes pour adultes et assez politiques. Et en fait, avec mon camarade Damien, on a fait un espèce de montage de textes qui nous plaisait. Et par un grand hasard, en fait, il y avait énormément de ces textes qui commençaient par « Il était une fois dans mon petit pays ». Et du coup, ça a donné la forme au spectacle. Parce que tous ces textes qui parlent avec des puissants qui viennent nous expliquer comment va le monde, comment il tourne, et que c'est bien grâce à eux qu'il tourne comme ça, ça nous faisait penser à un autre pays un peu plus grand, avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Et du coup, en fait, on raconte l'histoire de la France en petit, comme si on allait au bout de toutes les logiques un peu dégueulasses, capitalistiques, sur le dérèglement climatique et tout ça. Et comme si on allait jusqu'à ce que ce petit pays s'effondre, quoi. Alors, bon, la France n'est pas encore effondrée, on peut encore inverser la tendance, mais bon, pour le petit pays, c'est foutu, quoi. Donc, ne suivons pas l'exemple du petit pays.
La mise en scène de Discours à la Nation par son propre auteur, Celestini, a reçu le prix du public du Festival OFF d'Avignon en 2013. Comment avez-vous travaillé à votre propre version ? Est-ce que vous avez pris certaines libertés avec la création originale ?
Complètement, hein, parce que en fait, on part du matériau de base qui est le texte. Et en fait, on voit ce que ça nous fait, comment on a envie de le présenter, comment on a envie de tourner la chose. Et on ne s'est pas du tout attardé sur la façon de le mettre en scène par Celestini. On a vraiment fait notre formule à nous. On a vu les textes, comment ils nous inspiraient, comment on avait envie de les dire. Là, par exemple, il y a un des textes qui se passe dans une école. Et ce qu'il dit est complètement dégueulasse. La maîtresse de file indienne, elle dégage les enfants par la fenêtre parce qu'ils sont trop différents et tout ça. Et nous, ça nous faisait marrer, par exemple, de mettre ça un peu dans un contexte de « Bon alors les enfants, allez, on y va, tout le monde est bien content, allez. Alors, le petit Africain, on te met à la fin parce que bon, t'es quand même beaucoup plus différent que les autres. Alors toi, la blondinette grande et mince, toi tu vas à la première place. » Voilà, avec quelque chose du spectacle pour enfants, pour adultes, à certains passages, des choses beaucoup plus crues, plus dans la posture de l'homme politique à d'autres, faire un espèce d'ensemble comme ça, qui, je pense que si tu allumais ta télé et que tu regardais TF1, ça pourrait être comme ça, mais au premier degré. Donc voilà, c'est TF1, mais au troisième degré, avec une notion politique où c'est comme si, tu vois, quand les hommes politiques te parlent, il y avait la machine à côté qui était le brouilleur universel de langue de bois, et cet appareil-là, il était tombé en panne. Voilà, il y a un petit côté comme ça.
D'accord.
Mince, ils ont tout compris ce qu'on a dit. Mince.
C'est la première fois que vous collaborez avec Damien Reynal ?
C'est la deuxième fois. On avait monté un spectacle en 2015 qui a joué un tout petit peu sur Nantes, notamment chez les copains du théâtre de Poche Gralin, qui s'appelait Mère. C'était un autre Italien. Ah, ils n'ont pas de chance, les Italiens. c'était Tino Caspanello. Et là, du coup, on est reparti, Damien et moi, sur un autre spectacle d'un Italien encore, qui n'a pas de chance non plus. C'est vraiment, c'est une collaboration qu'on aime bosser ensemble, on aime notre façon de travailler. Je trouve que c'est un comédien génial, un metteur en scène génial, et c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui, quoi.
Ce spectacle, vous allez le défendre sur scène du 20 mars au 9 mai. Le texte est engagé et politique, comme vous l'avez signifié. Pour vous, le théâtre, c'est aussi une forme d'action politique ?
Alors, je sais qu'Ascanio Celestini, dans plusieurs interviews, se défend de faire de la politique avec ses textes. Mais bon, c'est quand même très... une sorte de successeur de Dario Fo, et c'est du théâtre politique. Moi, je pense qu'on fait de la politique via le théâtre, mais tout ce qu'on fait est politique au sens noble du terme. Ce spectacle, grosso modo, il dit « Bougeons-nous, faisons des choses, quoi, ne soyons pas passifs, quoi, n'attendons pas que la goutte d'eau qui tombe dans le robinet ne fasse déborder le lavabo et inonde tout l'immeuble, quoi. Levez-vous et allez fermer le robinet. » Et ça, c'est politique, d'une certaine façon. Et pour parler rapidement, Covid-19 et tout ça, il y a cette urgence... désolé, j'ai dit Covid-19.
Je note.
J'ai pas dit Corona. Il y a cette urgence-là, actuellement, qui est une urgence sanitaire, mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, on a cette urgence sociale avec... avec encore des gilets jaunes, avec, avec les retraites, avec de la gronde dans le pays. Et il faut qu'on continue de s'éclairer et de manifester sous quelque forme que ce soit. Et si on fait taire la culture, bah, il n'y a plus rien, quoi. Débranchons nos cerveaux, attendons de mourir pendant 14 jours chez nous et ne faisons plus rien. Voilà. Et moi, j'ai une jauge de 40 places, donc je passe sous les restrictions.
Vous avez déclaré dans une interview accordée à...
Malin.
Habile.
Vous avez déclaré à Presse Océan que ce lieu, donc le théâtre Crapaud-Roi, est une main tendue aux artistes locaux qui manquent d'un lieu pour travailler avec une attention particulière à l'engagement citoyen et féministe. C'est un espace que vous qualifiez de militant ?
Je pense que faire du théâtre de toutes les manières, c'est militant. En fait, c'est venir défendre un propos, tenir un discours et vouloir défendre une parole face à du public. Donc de toute façon, c'est militant. Après, c'est pas militant. Moi, quand je prends la notion de théâtre engagé, pour moi, c'est plutôt le fait d'agir, tu vois. Agissons, quoi qu'il en coûte, ce sera toujours mieux que l'inaction. Moi, à titre personnel, je suis de gauche, mais tu vois, on a des gens dans la compagnie qui ont voté pour l'aéroport. Donc on est assez ouvert quand même. On autorise même ces gens-là.
Hein, vous les avez pas exclus?
Non, du tout, du tout.
C'est dommage.
On essaie de les éduquer. On a des camps en Sibérie pour ça.
Quelle est la superficie du théâtre au juste?
Alors, en surface, je crois qu'il fait 45 mètres carrés. Et on a 40 places, tu vois. Toussez dans vos coudes, s'il vous plaît.
Vous l'avez découvert comment, ce lieu?
En fait, on cherchait un lieu pour faire un lieu de répétition et éventuellement, c'était vraiment en option un lieu pour diffuser du spectacle. Et je suis passé 1000 fois devant et j'ai dit, c'est quoi ce truc qui est fermé là, ça a l'air cool et tout. Et en fait, tout le monde m'a dissuadé d'y aller. On a pris un autre truc et finalement, ça ne l'a pas fait avec l'autre. Et je lui ai dit, allez, maintenant, je m'écoute. Et c'est celui-là, j'ai le feeling pour celui-là. Et j'ai fait les démarches et ça l'a fait. Et du coup, on a cravaché pendant 3 mois à temps plein pour le transformer en théâtre, en vrai théâtre. Et du coup, bah, c'est un peu mon bébé. Et je suis vraiment hyper fier de ce petit lieu qui est vraiment à taille humaine, qui n'est pas guindé du tout pour 3 sous et qui a une belle chaleur.
Eh bien, on va marquer une petite pause musicale,
et
Kevin.
Bah oui, écoutez, on vous retrouve dans un peu plus de 4 minutes, juste après Go Go Penguin avec Atomized.
Nous sommes toujours en compagnie de Alexis Yann du théâtre et de la compagnie du Crapaud Roi à Nantes, qui en plus de proposer des cours de théâtre tout au long de l'année aux amateurs comme aux professionnels, présente du 20 mars au 9 mai prochain le spectacle Chronique d'un petit pays. Informations et réservations via le site internet du théâtre crapaudroi.fr. Alexis Yann, quel a été votre parcours artistique avant de pousser les portes du petit théâtre de poche nantais ?
Ah, mon parcours artistique, c'est un vrai bordel.
En résumé. S'il vous plaît.
Alors, quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, j'ai découvert le théâtre, je pense, avec La Maison du Peuple de Pierre Fitte-sur-Seine. C'était une mairie communiste. Je vais passer pour un sale gaucho. C'était une mairie communiste et il y avait ces trucs-là qui étaient les Maisons du Peuple. Un truc génial, quoi. C'est des gros théâtres en grand, en beau et pour tout le monde. Et du coup, c'est dans des ateliers comme ça que ça m'a donné le goût du théâtre. Ensuite, en grandissant, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Moi, j'ai pas le bac, j'ai pas passé mes diplômes. En fait, je me suis orienté tout de suite vers le théâtre et je suis parti faire le cours Florent. Donc, je suis diplômé du cours Florent. J'ai bossé avec le théâtre de la Reine Blanche à Paris parce que oui, je suis désolé, je suis parisien au départ. Ouais, je sais. Voilà, j'ai pas contribué à faire augmenter le prix de l'immobilier. Hein. Pardon.
Ah.
Ensuite, j'ai créé la compagnie en 2009 à Paris, dans le 11e arrondissement. Et j'en avais marre que les gens ils se plantent des coups de couteau dans le dos, qu'il y ait de la concurrence entre comédiens, que les gens soient prêts à t'arracher les yeux pour avoir ton rôle. Donc, je me suis barré. Je me suis barré sur Nantes. Et pour rejoindre mon meilleur copain, qui est également le président de l'association Crapaud Roi, un fonctionnaire hyper sympa, malgré qu'il soit fonctionnaire. Un vrai amateur de théâtre. Ça devrait être lui qui devrait être à ma place ici pour parler. Et du coup, je l'ai rejoint. J'ai découvert le cadre de vie à Nantes. J'ai découvert le milieu théâtral à Nantes qui est vachement plus accueillant que le milieu parisien. Ici, il y a de la place pour tout le monde. On peut développer ses projets artistiques. On peut bosser en réseau, en commun. Moi, tous ceux que je connais, tous ceux que je fréquente sont hyper accueillants. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et je me suis dit, bah, ouais, c'est ici que j'ai envie de faire mon trou, c'est ici que j'ai envie de poser les pierres pour construire mon lieu, pour construire mon univers théâtral, et voilà.
Alors, vous offrez la possibilité à des amateurs de bénéficier de cours de théâtre, avec des cours pour les enfants, les ados comme les adultes. Vous créez également des spectacles avec ce public non professionnel.
Ouais. Et moi, j'ai un niveau d'exigence avec les amateurs qui est assez élevé parce qu'en fait, la distinction professionnelle-amateur, pour moi, elle se fait beaucoup plus sur le fait qu'un professionnel va décider de gagner sa vie avec alors qu'un amateur va le faire pour le plaisir. Et du coup, je vois pas pourquoi un amateur aurait moins d'exigence à faire un spectacle qu'un professionnel. Après, il peut y consacrer moins de temps, mais tu vois, l'exigence artistique, il faut qu'elle soit là et présente. Et je fais pas des spectacles au rabais avec mes amateurs. Je les pousse, je leur mets des coups de cravache.
C'est violent quand même.
Non mais ils sont volontaires, ils sont volontaires pour ça. C'est ça le pire, ils aiment ça. Et on essaye de faire les spectacles les plus qualitatifs possibles parce qu'il n'y a pas de raison que des amateurs puissent pas, quoi. Voilà, c'est leur spectacle, ils s'investissent dedans, ils font un an à bosser ça, faut avoir une vraie qualité de spectacle et un nombre de dates de représentation à l'issue qui est honorable, quoi, parce que bosser un an pour une représentation, deux représentations, moi je trouve ça un peu juste, quoi. Nous on est plutôt dans trois pour le moins et six pour le plus, tu vois, avec les amateurs.
Au mois de juillet prochain, vous allez de nouveau participer à faire vivre la rue Léon Jamin avec les Folies Jamin, un festival qui va faire vivre cette rue au rythme des années 1900. On peut s'attendre à quoi, au juste ?
Alors, on peut s'attendre, si le soleil et la chaleur tuent le coronavirus d'ici là. Là, tu peux le noter, j'ai dit corona. Nous, ce qu'on développe, c'est un univers 1900-1920 assez barré, très freak show, avec des numéros type la femme à barbe qui chante, l'homme fort qui soulève de la fonte. Hein, on va avoir une femme forte plutôt cette année. Les faux siamois, tout cet univers un petit peu de foire monstrueuse, de la musique 1920. On va avoir du combat de Cannes. Hein, comme en 1900 avec les lords là, qui se tatanent la tronche à coups de canne. Ça va être super.
Tu parlais des animaux, j'ai eu peur.
Ah non, pas les...
Ils balancent des canards, tu vois.
Plein de petites surprises et on augmente la durée. On avait commencé l'édition de l'année dernière. On avait commencé assez tard, vers 16h. Là, on commence à 14h pour avoir une partie beaucoup plus kids-friendly, comme on dit, pour que les enfants aussi puissent jouer sur des jeux en bois 1900 et tout ça. Et ça va être très, très, très fun. Et on fait ça avec la raffinerie nantaise, qui a un commerce de fringues 1900 à 1960 et qui est dans la rue aussi, rue Léon Jamin.
Et bien, pour conclure, peut-être de prochains projets en cours dont vous souhaiteriez nous parler.
Oh là là, on a énormément de projets
en cours. Il y en a trop. Il y a le réalisateur qui dit là non.
Il y en a peut-être un qui me tient très très à cœur, qui se fera après Chronique d'un petit pays. C'est un projet de spectacle avec les aidants. C'est les personnes qui ont un handicap qui s'occupent de ces membres de leur famille. On a envie de construire un spectacle d'aidants avec l'ADAPI, avec des aidants au plateau pour parler de cette thématique-là et défendre un peu ce projet-là d'aider les aidants. Voilà.
Eh bien... Pardon, je vous remercie Alexis Yane.
Merci à vous.
Chronique d'un petit pays, c'est du 20 mars au 9 mai prochain au Théâtre Craporoy à Nantes. Toutes les informations concernant vos événements sont à retrouver sur le site internet. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
À plus tard.
En espérant que les rassemblements de plus de 35 personnes ne vont pas être annulés d'ici la semaine prochaine.
On parle pas de malheur.
Ça serait franchement la poisse. On continue tout de suite avec la chronique d'Yves Calva.
Bonjour à toutes et tous, alors juste le temps d'enfiler mon petit masque.
Il en a vraiment pris un. Hein.
Voilà. Normalement ça me sert pour les manifs, mais ça sert aussi pour tout ça. Alors juste le temps, voilà. Alors une chronique sous le signe de l'optimisme et de la détente. On va tous mourir ! Conviviale et résolument bienveillante. Sauf qu'il part !
Yves, je vous sens un peu troublé.
Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Bah je sais pas, le fait que vous puissiez des petits cris aigus dans vos phrases.
Oui, peut-être, mais ça, c'est la faute à mon autre moi.
Et c'est qui votre autre vous ?
C'est le moi de la panique, de la déraison. Celui qui regarde depuis une semaine les chaînes d'infos en continu, branché sur France Info H24. Je suis sous assistance médiatique depuis plusieurs jours et je peux vous l'annoncer, l'apocalypse aura lieu en 2020. Si, les Mayas l'avaient prédit, ils s'étaient juste gourés d'un chiffre, hein. C'est pas en 2012, c'est en 2020. Oui, j'ai un PhD en langue maya que j'ai passé au Mexique. Je m'en souviens très bien, c'était en 1987, Cancun, une chaleur torride, mes sens en éveil. À l'époque, j'étais professeur assistant.
Yves,
oui,
on s'en fout.
Ah, oui, bon, toujours est-il que les Mayas avaient écrit, et ceci est véridique, je le jure sur la vie de Christophe Castaner, quand les petits hommes blancs ne pourront plus apprendre à déchiffrer la nature et à compter les chiffres du monde, lorsque les hommes à barbe venus de par-delà les océans ne pourront plus voler avec leurs grands condors de fer et d'or, quand les huitièmes de finale de la Champions League seront reportés, alors oui, il faudra parler de la fin du monde. Alors franchement, je dois dire que je suis assez excité à l'idée de vivre ce moment historique. Hein. À chaque génération, ses grandes peurs, il faut croire. Nos grands-parents, c'était les nazis, Charline en parlera. Nos parents, c'était les communistes. Et ben nous, c'est un virus. Hein. Pff, le seum, hein, comme disent les moins de 30 ans, hein, n'est-ce pas, Amandine ? C'est même pas un virus qui te transforme en zombie. Donc je ne peux tuer personne pour le moment. Hein. Hashtag choqué, déçu. En fait, il y a même des effets positifs hein, à ce virus. Déjà, on n'a pas eu à supporter la vingtaine de gosses qui devaient venir pour assister à l'émission. C'est un grand ouf de soulagement pour tout le monde. Et puis, il y a des vraies bonnes nouvelles. Hein, comme souvent, elles nous viennent de l'étranger. Et les boomers, vous savez, les vieux, ils n'ont qu'à bien se tenir. On apprenait aujourd'hui que Jair Bolsonaro, président du Brésil, était infecté par le virus. Alors, c'est rigolo, hein, parce qu'il y a quelques jours, il disait que le Covid-19 était une fantaisie et que la maladie était complètement surestimée. Alors Jair, on fait moi le malin, hein ? L'a touché ou l'a pas touché le virus, hein ? Celui-ci avait rencontré Donald Trump le 7 mars dernier pour une réunion, je cite, hein, des opportunités pour rendre le monde plus prospère et plus démocratique. Pourquoi pas, hein ? C'est un peu comme demander à Émile Louis de nous donner des tips pour conduire des bus, on peut s'en passer. Ne reste plus qu'à espérer que Trump soit contaminé et qu'il le refile à tous ses secrétaires d'État. Et à tous les républicains, et à tous les présidents des États du monde, anarchie forever ! Nous, en France, hier soir, on a eu Emmanuel, petit père des peuples, Macron, qui est venu nous rassurer et nous dire de bien nous laver les mains. Hein, on était quand même 25 millions d'enfants à le regarder, tous soulagés que le président directeur général de la Startup France vienne nous éclairer de ses lumières. Alors, malgré l'enrobage, État-providence et « j'ai dépensé sans compter hein, », comme dirait le milliardaire dans Jurassic Park, le sandwich qu'Emmanuel Macron voulait nous faire manger avait quand même le goût de caca. Ah bah oui, hein, le mec, hein, les seules annonces concrètes qu'il a fait, c'est pour aider les entreprises et les exonérer de cotisations sociales. C'est presque un réflexe pavlovien chez lui, hein, dès qu'il y a un problème, hop, on allège la fiscalité des entreprises. Hein. Par contre, aucune annonce pour les hôpitaux, hein, je sais pas, par exemple pour un plan massif de recrutement de personnel soignant ou de médecins. Non. À la place, on va faire bosser gratos les étudiants et les jeunes retraités. Waouh, mais merci la Startup Nation. Tu viens de réinventer l'effort de guerre, mais sans payer les gens. Mais ça, c'est disruptif, dis donc. Et il a pensé à un tout, hein. Pour s'occuper des gamins qui ne pourront pas aller à l'école, eh bien, il y aura les étudiants, une immense cohorte de babysitters pour garder tous les marmots de France. Mais ça, c'est vraiment flex. J'aime cet esprit, Emmanuel.
Merci, Yves.
Et on aura apprécié le petit bed de fond sonore à base de chambre d'hôpital.
Bravo.
Je sais pas si les gens avaient entendu.
Nous cherchons un mot de 8 lettres.
Ah oui. Tais-toi, Victor.
Écrivain. E-C-R-I-V-A-I-N.
Ça fait 100 à rien pour l'instant, Mathilde. Allez-y.
Votre intérêt est satisfait par curiosité ? Laissez-nous aussi vous gâter avec la pause cadeau sur Prune 92FM et sur le www.prune.net.
Ah, c'est notre petit défaut, c'est qu'on veut qu'il y ait du rythme, c'est tout.
Ce soir, tentez de gagner un vinyle de Riziane Saïd, sorti fin 2019 sur le label Acuphone. C'est le deuxième album de cet artiste syrien. Il fait partie des pionniers du dab électronique et de ceux qui ont su convertir cette musique de mariage où l'on danse en ligne de Hit Dance Floor, qui passe dans tous les clubs du monde entier, de Tunis à New York et de Paris à Bamako. On retrouve beaucoup de similitudes avec Omar Souleymane. Pour jouer, envoyez vite en message privé le mot Siri sur le compte Instagram de Prune. Premier arrivé, premier servi.
Sympa.
Deuxième partie d'émission avec une chronique dans une petite vingtaine de minutes,
hein,
celle de Charline, avec un sujet qui va être, je pense, passionnant.
Mais tout de suite. Ça parle de quoi déjà Vous verrez, c'est bon.
Bon, bah tout de suite, on enchaîne avec Sophia et ses invités qui vont nous parler également de théâtre.
Est-il possible d'en savoir plus sur son territoire, sa vie associative, culturelle, sociale et le tout chaque jour? Oui, dans Curiosité, l'émission quotidienne de Prune.
S'il y a une thématique d'actualité en dehors du coronavirus, c'est celle des mouvements sociaux qui ont émergé ou émergent en France et partout dans le monde. Les mobilisations collectives contestent ou revendiquent un changement social et c'est le propos de la pièce de théâtre Grève de la compagnie Oboz qui jouera demain soir à la CMEA. Grève, c'est l'histoire de 6 ouvrières et ouvriers. L'entreprise dans laquelle ils travaillent décide de licencier l'un d'entre eux pour continuer à exister. Et ensemble, ils vont faire bloc pour dénoncer cette décision. Nous recevons Dimitri Arrault, comédien de la troupe Léo Bose. Bonsoir Dimitri.
Bonsoir.
Et nous recevons aussi Leslie Le Calvé qui travaille à la CMEA, donc le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active de Nantes, qui accueille demain soir la troupe des Léo Bose. Bonsoir Leslie.
Bonsoir.
Alors Dimitri, pour commencer, vous portez avec votre troupe Léo Bose un théâtre militant, un théâtre politique. L'envie de porter un discours politique sur cette scène, elle est née comment ?
Alors, elle est née déjà par nos propres vies, par nos propres aspirations, l'envie de retranscrire sur scène ce que l'on peut avoir, nous, comme engagement individuel et donc et collectif, parce que c'est avant tout le théâtre, comme disait votre invité avant, c'est du collectif, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est né de nos histoires personnelles. Certains d'entre nous ont travaillé dans des usines ou ont eu de la famille qui a été confrontée de près ou de loin, ou des amis. On a tous dans notre entourage connu des gens qui ont eu qui ont été confrontés à ce genre de dilemme dans leur entreprise. Donc c'est quelque chose qui est quasiment intemporel, on aurait pu la jouer il y a 20 ans, on pourrait la jouer dans 20 ans. Ouais. Je pense que le sujet fonctionnerait encore. Donc c'est vraiment comme ça que c'est né, quoi.
La mise en scène est brute, les costumes sont très simples. Il y a très peu de décors, tout juste 2 cubes sur lesquels montent parfois les ouvriers pour faire entendre leur colère et une banderole de manifestation. C'était une volonté de mettre en évidence l'urgence du texte.
Oui, absolument. Ouais. Oui, c'est montré parce que dans une pièce comme celle-ci, les personnages, ils sont dans une urgence par rapport à leur situation, par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, quelle que soit la durée du mouvement, ils sont toujours dans une urgence. On le voit à chaque fois. Et donc, c'est vraiment pour mettre vraiment à brut et montrer également par la mise en scène qu'eux aussi sont vraiment à fleur, quoi.
Dans le travail ouvrier, il y a une chose essentielle à souligner, c'est la pénibilité du travail qui est très physique et répétitif. Comment est-ce que vous avez justement travaillé cette question de la pénibilité dans la mise en scène ?
Alors, on l'a travaillé par le mouvement, par le travail de, en montrant réellement le travail de l'usine, mais d'une façon très épurée. Du coup, on a voulu plus que montrer la pénibilité, montrer la pénibilité, le psychique réellement des personnages, des gens qui travaillent la dureté de savoir, de ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain réellement, quoi. Et de savoir si c'est nous ou le copain qui travaille au poste d'à côté qui sera le prochain sur la liste, quoi. C'est plus ça.
Et est-ce que ça passe aussi par le corps et la posture ou c'était pas...
Oui, bah c'est forcément, et déjà de toute façon théâtralement on est obligé de passer par la posture, d'autant plus je sais pas, mais quand le décor est épuré, on est obligé de passer par du physique également pour pouvoir amener une vie dans le théâtre, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que les 6 personnages, ouvrières et ouvriers, ont tous un regard différent sur ce que doit être la grève, sur comment il faut se battre. Certains ont des moments de doute, des fois ils s'engueulent. Est-ce qu'il y avait une volonté de pédagogie auprès du public sur comment se construit un mouvement de grève avec des personnes aux histoires et aux sensibilités différentes ?
Ouais, bien sûr. Et c'était aussi une volonté de vraiment montrer tout ce panel de personnes qui se retrouvent dans un lieu à vivre la même situation et... tout le monde a ses intérêts, a des intérêts différents, des opinions divergentes, et tout le monde n'a pas la même vision d'une lutte, de par son histoire, de par, comme je disais, de par ses intérêts. Donc c'était ça qu'on voulait mettre en avant également, et que la nature humaine est faite de telle manière que, voilà, c'est peut-être utopiste, mais il y a quelque chose de bon dans tout le monde, quoi.
Alors, j'ai lu que cette pièce était issue d'un travail d'enquête au sein des classes populaires. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, nous, on travaille, les pièces sont des créations. Celle-ci est une création, en tout cas. C'est la première de la troupe. On est en train d'en écrire une seconde, toujours sur le monde du travail. Mais celle-ci, elle a été faite, donc une écriture collective, et qui était basée, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'histoire personnelle qu'on pouvait avoir chacun, et également sur du collectage. De témoignages, par exemple il y a un des monologues, parce qu'il y a quelques monologues des personnages, il y en a un qui a été repris, qui a été dit en 1979 par une femme d'ouvrier sur radio Lorraine Cœur d'Acier, qui avait été une radio ouvrière pirate, qui avait été créée en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle pour lutter contre la fermeture des usines sidérurgiques. Donc voilà, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. C'est aussi, c'est pas que du romancé, c'est aussi, il y a des moments de vérité également.
Alors le spectacle est joué depuis 2014. Il a tourné dans plusieurs salles à Nantes et dans sa région. Est-ce que depuis cette date, il a évolué avec tous les mouvements sociaux que l'on connaît ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans le spectacle ?
Alors on a pas forcément fait évoluer le texte, on a fait évoluer la forme, parce que des nouveaux acteurs sont arrivés. On tourne parce que voilà, il y a une certaine sorte d'usure à jouer une pièce depuis 5-6 ans, ça commence. Et du coup, on a fait évoluer un peu le jeu, mais l'histoire en elle-même, non, rien n'a évolué particulièrement.
Moi, je vous propose de faire une petite pause musicale, on vous retrouve dans un peu plus de 3 minutes. Et entre Gogo Penguin tout à l'heure qui a été choisi par Théo et maintenant Funk Mammoth, je pense qu'il est très branché animaux aujourd'hui quand même. Happy Song tout de suite sur Prune.
Nous retrouvons Dimitri Haro, comédien, et Leslie Le Calvé qui travaille au CMA de Nantes. où la troupe des Hobos jouera sa pièce politique et militante qui s'appelle Grève. Cet événement s'inscrit dans le printemps du 102, qui s'inscrit dans la 11e édition d'Agissons contre le racisme et les discriminations, organisée par la semaine d'éducation contre le racisme et toute forme de discrimination. Leslie, vous travaillez donc au CMEA de Nantes. CMEA, c'est l'acronyme de Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les CMEA et quel genre de mission vous réalisez ?
Alors, on peut dire que les CMEA, ils vont avoir trois types d'actions. C'est à la fois un organisme de formation sur des formations à l'animation, qui a un peu l'histoire de l'association, comme le BAFA, par exemple. C'est à la fois un terrain d'application, c'est-à-dire qu'on va accueillir certains publics. Aujourd'hui, à Nantes, on accueille un public de jeunes exilés, qu'on appelle l'accueil TAMO, et un autre public, par exemple, qui est TINSOL, qui est un accueil de jeunes femmes roms et issues des bidonvilles. Et c'est à la fois un mouvement de recherche. Et du coup, dans le mouvement de recherche, on va avoir des militants et des militantes qui vont réfléchir à des thématiques. Alors, les questions de discrimination sont une des thématiques qu'on aborde au sein de l'association.
La culture, c'est un élément qu'on retrouve dans la pièce Grève, notamment quand l'un des personnages parle de son amour des livres et des auteurs qui parlent des luttes ouvrières. L'accès à la culture, c'est aussi une des valeurs portées par les CMEA. Pour vous, Leslie, c'est un des enjeux majeurs pour lutter contre les discriminations et les inégalités ?
Oui, c'est un des enjeux et c'est aussi pour ça que le printemps du 102 a été mis en place depuis la troisième année. C'est du coup de proposer des événements gratuits ouverts à tous les publics sur le territoire, sur le quartier en fait.
Également dans le cadre de la 11e édition d'Agissons contre le racisme et les discriminations, la CMEA organise un ciné-débat mardi 17 mars sur la thématique du désir d'enfant et la parentalité des personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, je peux vous en dire plusieurs mots. Alors déjà, il va être reporté.
D'accord.
Pour octobre, en raison des événements actuels, puisque ça touche aussi des publics qui sont vulnérables, notamment des personnes en situation de handicap. Et du coup, avec l'association Grandir d'un monde à l'autre et les CMEA, on a décidé de le reporter. Pour autant, je peux vous en dire quand même quelques mots.
Avec plaisir.
parce que du coup, ça existera toujours sur octobre 2020. C'est une Grandir d'un monde à l'autre. Du coup, c'est une association qui a fait un reportage depuis 10 ans, qui a à la fois rencontré des parents qui ont eu des enfants en situation de handicap. Et du coup, ça parle du désir de parents et puis aussi un peu le deuil de l'enfant idéalisé. Du coup, quand on a un enfant, on imagine l'enfant dans son devenir, quand il sera jeune, quand il sera adulte. Sauf qu'à la naissance, ce n'est pas possible. Mais ça parle aussi de comment, en situation de handicap, on a le droit aussi d'être parent, en fait. Et on a le droit à une sexualité, en fait.
Alors, c'est justement le sujet dont j'allais venir dans ma question suivante, parce que c'est un peu un sujet tabou, la sexualité des personnes porteuses d'un handicap physique. Mais il y a un débat qui commence un peu à naître. Et quel regard, justement, vous portez sur accompagnants sexuels? Ils sont présents déjà dans de nombreux pays, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne, c'est autorisé, mais en France, ils sont officiellement interdits pour l'instant.
Alors, je ne sais pas si j'aurais un regard particulier. Je pense que, de toute façon, les sexualités, ça reste que très individuel, en fait. Après, je pense que pour autant, c'est important d'en parler, en fait, puisque, du coup, dans des structures, alors un peu moins maintenant, ça reste proscrit ou interdit, voire tout ce qui est pilule, en fait, c'est obligé pour des personnes, voire la castration, en fait. Et aujourd'hui, il y a des structures, en tout cas des professionnels du médico-social qui s'ouvrent à ces discussions-là, voire des familles qui s'ouvrent aussi à ces discussions-là, en fait. Du coup, c'est notamment par ça que je pense qu'on va pouvoir aussi faire bouger les lignes.
Comment est née cette collaboration entre votre collectif Léo Bose et la CMEA ?
Un peu par hasard, c'est-à-dire que quand on a commencé à rechercher la programmation pour le printemps du 102, en fait, un des salariés de l'association avait vu le spectacle et on s'est dit pourquoi pas en ouverture du printemps du 102, puisque ça restait aussi en plein dans les mouvements de décembre et que c'était l'occasion aussi de parler des discriminations, alors des discriminations au travail, mais aussi des discriminations dans les mouvements de lutte, puisque des fois il n'est pas facile aussi, alors parfois en tant que femme, de pouvoir lutter aussi comme les autres.
Je reviens vers vous, Dimitri Haro. Dans la pièce Grève, il est aussi question du rapport entre les générations. Les ouvriers de la pièce parlent de la distance qui peut s'instaurer avec leurs enfants qui font des études, de leur envie de les rendre fiers aussi. C'est quelque chose que vous cherchiez à mettre en évidence ?
Oui, parce que le métier global d'ouvrier, voilà, il est en perte. Hein, clairement, le tertiaire prend de la place. On délocalise énormément. Donc voilà, c'est le sujet. Et puis voilà, les robots remplacent les hommes, donc, ou les femmes d'ailleurs, les femmes ou les hommes, enfin les ouvriers et ouvrières. Et donc du coup, là, ça rentre forcément dans le thème. Hein. Clairement, la discrimination, qu'elle soit on aborde la discrimination autant raciale que générationnelle, que féminine, voilà, de parité. Donc, on essaie d'aborder vraiment tout ça parce qu'elle fait vraiment partie du quotidien de tout à chacun réellement, quoi.
Aussi, alors, dans le printemps du 102, il y a aussi deux autres événements, je crois.
Une vingtaine.
Ah, je suis passée à côté de plein d'événements. Est-ce que vous avez envie de nous en dire quelques mots supplémentaires ?
Ça peut, c'est-à-dire qu'en effet, le printemps du 102 est en partenariat avec les semaines d'éducation contre les discriminations pour tous les événements du mois de mars. Parce que c'est un événement qui existe au mois de mars. Mais nous, le printemps du 102, il ouvre dès demain avec la compagnie Obose, mais il se termine le 17 juin. Et du coup, il y a plusieurs événements sur les 4 mois que pour l'instant, on maintient par certains. Mais il y a plusieurs événements. Alors, il y a des spectacles, des ciné-débats, des soirées-jeux, un festival sur 2 jours en mai aussi. Et du coup, c'est un collectif d'associations qui se mobilise pour organiser cet événement-là, en fait.
D'accord. Je voulais vous demander aussi, votre troupe s'appelle les Oboses, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ce nom ?
Alors, les Oboses, à la base, ce sont les ouvriers, les cheminots, alors à pas confondre avec les cheminots français qui travaillent à la SNCF, ou, voilà, les cheminots américains qui, au 19e siècle, prenaient les trains de marchandises pour aller faire les saisons aux États-Unis. Ils travaillaient sur les voies de chemin de fer. Après, ils partaient clandestinement, ils prenaient un train de marchandises et ils allaient... ramasser les pamplemousses en Floride. Après, il est remonté dans l'Oregon pour aller faire du bûcheronnage. Et voilà, c'était tous ces vagabonds du travail qui partaient. Voilà. Et ce qui nous a attiré également, c'est que ça a créé toute une effervescence littéraire aux États-Unis, tout un courant, Jack London, voilà, toute une veine qui s'est créé là-dessus. Donc voilà, ça nous a attirés, quoi, naturellement.
Pour terminer, une question pour vous deux. Vous diriez qu'elle se trouve où, la force, finalement ?
Ah, la force...
Question un peu philosophique.
Je pense que là...
Dans le collectif, peut-être
Dans le collectif, dans la solidarité également. Voilà, c'est ça. Hein, c'est dans le respect de... C'est un peu cliché, mais dans le respect de tout à chacun, quoi, clairement. Quoi.
Merci beaucoup, Dimitri et Leslie, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que la pièce Grève de la troupe des Oboses se trouvera demain à la CMEA de Nantes à 20h. Au CMEA, pardon. Vous jouerez aussi le 15 mars à 15h pour l'association Les Amis de Mai au centre Fernand Pelloutier de Saint-Nazaire. Oui. La CMEA accueillera pour la 11e édition d'Agissons contre le racisme et les discriminations et le printemps du 102 d'autres temps forts, comme le ciné-débat qui du coup sera en octobre sur la parentalité des personnes porteuses d'un handicap. Merci encore et belle soirée.
Merci. Merci à vous d'être venus répondre à nos questions. Et maintenant, on va continuer avec une chronique qu'on a hâte de tous entendre, celle de Charline.
Musique, littérature, politique, sociologie. Les plumes de la rédaction sont à l'œuvre pour leur chronique dans Curiosité.
Je le dis presque tous les jours, j'aime Nantes, vraiment. Mais pour aujourd'hui, on va oublier la capitale ligérienne pendant quelques minutes pour s'intéresser à une autre ville. Fini l'ethnocentrisme, à bas les frontières, partons plutôt pour une autre destination. Que diriez-vous d'aller vers l'océan, la plage, le sable ? Bref, vers un petit paradis nommé Saint-Nazaire. Allez, Saint-Nazaire a de quoi intriguer. Et notamment un de ses monuments. Long de 300 mètres, avec ses 18 mètres de hauteur, il en impose. Enfin, elle, la base sous-marine de Saint-Nazaire. Le béton y est solide, l'architecture froide. Aujourd'hui ouverte, la base sous-marine était autrefois un vrai bunker. Après de grands travaux qui ont permis d'ouvrir les murs de cette base, c'est une partie de l'histoire de la ville qui s'ouvre aux visiteurs. Et cette partie de l'histoire ne laisse pas indifférent, même des dizaines d'années après l'abandon du site. Mais encore faut-il la connaître. Ne soyons pas ignorants et remontons quelques années avant sa construction. Nous sommes à l'orée de ce qui sera la Seconde Guerre mondiale. Saint-Nazaire est un des plus grands ports de la façade atlantique. L'armée allemande arrive dans la ville en 1940. Près de la côte et de l'estuaire de la Loire, sa position est stratégique. Rapidement, la décision est prise d'y construire une base, un abri pour les sous-marins allemands. Le but est de protéger les sous-marins des bombardements anglais. Mais pas seulement, puisqu'il y a aussi dans cette base des ateliers techniques, des bureaux, des chambres pour les équipages, des cuisines et même un bloc opératoire. En bref, le lieu est une place forte de l'armée allemande en France. Pour les Alliés, la base est indestructible, mais pas la ville. Durant cette période, 80% de la ville de Saint-Nazaire est détruite par les bombardements. La protection qu'offre la base sous-marine aux soldats allemands rend leur reddition bien plus longue que dans le reste du territoire occupé. Saint-Nazaire est la dernière ville libérée d'Europe. Paradoxalement, avec la guerre, il reste très peu de choses de la ville d'avant, mais cette base allemande, elle, est apparue. Et elle est surtout restée. La fin de la guerre signe l'abandon de la base sous-marine. L'abandon du lieu est aussi celui du quartier, où les habitants ne préfèrent pas se réinstaller. Et pour cause, le passé pèse encore trop lourdement sur la ville. Mais cette situation ne pouvait pas durer, il fallait donc se réconcilier avec ce morceau de ville, mais surtout ce morceau de l'histoire. Il fallait le comprendre pour l'accepter, le transformer pour le redécouvrir. Hier, la base sous-marine était une forteresse défensive allemande. Aujourd'hui, le lieu est devenu un espace de fête où la culture s'est imposée. Et quelle belle idée! La culture n'éclipse pas l'histoire, mais elle permet de l'appréhender d'un autre regard. Les murs sont toujours les mêmes, mais à l'intérieur, ce n'est plus les bombes, mais la musique qui y résonne.
Merci Charline pour cette chronique. Même s'il y a des mots qu'on aurait voulu entendre et qu'on n'a pas entendu. Je suis un peu déçu. Elle nous a fait un tabou, franchement. C'est moche. Merci à tous d'avoir passé cette heure avec nous. Merci aussi à toute l'équipe.
Merci à toi.
De rien. Écoutez, on se retrouve vendredi à la même heure.
C'est noté.
Si on est encore vivant.
Écoute, j'espère.
À la semaine prochaine, ouais. C'était une émission optimiste.
C'est ça, ouais. C'est bien que ça va jusqu'au bout. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez nous retrouver et nous écouter en podcast sur le site www.prune.net. Le Planétarium Club prend le relais. Bonne soirée et bon week-end.
Toutes les émissions de Curiosité sont à retrouver sur le www.prune.net dans la rubrique Émissions.